s'ils viennent me voir un beau jour. Faire signer la pochette en loc d'un bien-aimé 45 tours. Quand à présent je les regarde, en les voyant s'illumineux, je souhaite que toujours ils gardent cette étincelle dans les yeux. Les rescapés des fabulettes, les amoureux de la petite Josette, ceux qui montaient dans mon bateau même qu'il était pas beau. Les rescapés des fabulettes, de toboggans en bicyclette, adoraient le petit sapin même s'il piquait les mains. Finalement, quand j'y repense, nous voici quittes à présent. Si j'ai enchanté leur enfance, la mienne était cachée dedans. Les rescapés des fabulettes, les amoureux de la petite Josette, ceux qui montaient dans mon bateau même qu'il n'était pas beau. Les rescapés des fabulettes, de toboggans en bicyclette, adoraient le petit sapin même s'il piquait les mains. Les rescapés des fabulettes, les amoureux de la petite Josette, ceux qui montaient dans mon bateau même qu'il était pas beau. Les rescapés des fabulettes, de toboggans en bicyclette, adoraient le petit sapin même s'il piquait les mains.
Radio Libé... Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste, sur le 89.4 FM et www.radio-libertaire.net. Je dis bien, dans quelques secondes, le Ferry Club.
Radio... Oh, il y a Radio Libertaire.
Sur Radio Libertaire.
Vous êtes sur Radio Libertaire en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération Anarchiste.
Bonjour à toutes et à tous, le Ferry Club Radio Libertaire, c'est la 300e déjà.
La Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
Les souvenirs de ceux qui n'ont plus de maison se traînent dans les bars ou sur les autoroutes à 160 à l'heure. Ils se tiraient sans vous à 160 à l'heure. Tu choisis pas ta route, tu choisis pas ta route. Cette machine à écrire qui tape un manuscrit, ce manteau qui sourit et qui me tend les bras, cette valise où mon âme est pliée sans un pli, cette bougie qui meurt et qui n'en finit pas, ce papier que noircit une lettre d'amour, ce crayon malheureux et qui a mauvaise mine, ce miroir qui me parlait la nuit et le jour, jusqu'à l'ultime jour, jusqu'à l'ultime nuit. Les souvenirs de ceux qui n'ont plus de maison se traînent dans les bars ou dans le fond d'un lit à 160 à l'heure. Ils se traînent et s'en vont à 160 à la mélancolie, à la mélancolie. Ce parfum qu'on oublie dans le bruit des odeurs, cette larme qui coule et qui sèche à ton bras, ce bijou qui s'ennuie au cou de ton mari, malheur, cette gorge qui s'ouvre et qui n'en finit pas. Ce matin qui sépare dans l'horreur de la vie, cette ombre de la brume où se perd la mémoire, cette conscience au bout de ce qui t'est permis, ce désespoir enfin qui s'invente une histoire. Ils s'en vont, les souvenirs cassés. Ils s'en vont, les souvenirs. Allez, comme des chiens perdus qu'on ne reconnaît plus, si ce n'est alors que un tremblement de la rue. Un tremblement de la rue. Ils pleurent tous ces chiens qui s'en vont, larmes basses, dans le fond de la brume. On les voit divaguer. Quelquefois ils s'en prennent à leur ombre et demain des soleils amoureux leur lècheront la face. Ils pleurent tous ces chiens qui s'en vont l'arme basse dans le fond de la brume. On les voit divaguer. Quelquefois ils s'en prennent à leur ombre et demain des soleils amoureux leur lècheront la face. Et la mélancolie, la mélancolie.
Mélancolie.
Mélancolie. Bonjour à toutes et à tous. Le Ferry Club, c'est bien évidemment votre tranche hebdomadaire de Léo entre 16h et 17h sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, que vous écoutez sur le 89.4 FM et www.radio-libertaire.net. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout va bien derrière le lien, derrière le poste. Nous sommes aujourd'hui le temps et ça tombe bien, il est 16h06. Nous sommes évidemment en direct pour cette nouvelle édition. Aujourd'hui, je vous propose une émission particulière. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, donc pas énormément de surprises. Nous sommes à la 300e du Ferry Club, et voilà, déjà 300 émissions. En tout cas, oui, révolue, hein, puisque ça y est, la 300e a commencé, donc nous sommes déjà dans le cap des 300 émissions. Et je vous propose cette semaine, eh bien, un petit retour sur les différentes émissions qui ont pu avoir lieu depuis. Alors, lors de la 100e de cette émission, je vous avais proposé un peu hein, la même chose que ce qui va se dérouler aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de rétrospective des différents entretiens qui ont été menés lors des 100 premières éditions du Ferry Club. Lors de la 200e, eh bien, nous étions avec quelques amis de l'émission, avec Max, avec Ronan, avec Jean-Baptiste, avec Guillaume, qui étaient passés, histoire de voilà, créer un petit moment de vie. Il faut dire que lors de cette 200e, on était quelques jours, j'allais dire quelques heures, mais quand même pas, quelques jours après un moment un petit peu dur, quoi, où on avait tous été contraints de rester chez nous, on était un petit peu dans une forme de torpeur, si vous me permettez le mot. Donc un petit moment en plateau, c'était pas mal, et donc réunir quelques amis, eh bien c'était bien agréable. Lors de cette 300e, eh bien, je vous propose de faire donc cette rétrospective depuis la 100e. Hein, je vais pas revenir sur les 100 premières éditions puisque ça avait été fait lors de la 100e. On va partir donc de la 100e et on va écouter quelques extraits des différents entretiens qui ont pu avoir lieu dans cette émission. On va commencer tout de suite avec une pièce de théâtre qui s'intitulait Léo et lui, qui avait été proposée par Jean Pétremant et Léonard Stefanica, qui s'était joué à Avignon et qui se jouait au théâtre de l'Essaillon à Paris. Jean était intervenu lors de l'émission 107, lors du numéro 107, le 4 décembre 2019, nous avait parlé un petit peu de sa pièce de théâtre, et parmi les souvenirs qu'il avait évoqués, il y a une rencontre avec Léo. Alors, on commence un petit peu mal avec cette première édition, parce que c'est un moment où on rencontrait quelques difficultés techniques, on va dire, dans le studio B, et grâce à l'application et presque au génie, j'ai envie de dire, des gens qui s'occupent de la technique à Radio Libertaire, c'est-à-dire 99% Monique, que je salue et embrasse par la même occasion, tout va mieux aujourd'hui, mais à l'époque on rencontrait quelques petites difficultés techniques, et donc le son n'est pas terrible, j'en suis désolé. Jean Pétremant, le Ferré Club numéro 107, le 4 décembre 2019.
Et moi, je me rappelais de Marie-Christine, il y a plus de 30 ans, que j'avais rencontrée à l'issue d'un concert de Léo. Et Marie-Christine était très protectrice, et donc ne laissait pas tellement les gens s'approcher de Léo. Et par divers biens, on avait été quand même invité à la table, mais en bout de table, si tu vois ce que je veux dire. Donc, à la limite, on le voyait, mais on pouvait pas tellement interagir. Et il y avait cette protection, on sentait que c'était difficile de s'approcher de Léo. Et puis, tout d'un coup, quand même, là, c'est une anecdote, ben, on était trois jeunes, et on avait quelque chose à demander à Léo, et on a interjecté Léo, quand même avec la bénédiction de Marie-Christine, sur « Léo, est-ce que tu connais Bruno ? Est-ce que tu connais Bruno ? Giordano Bruno, etc. » Et il dit « Non, ça ne dit rien. » Et pourtant, il habitait déjà en Toscane. Et donc, ce philosophe italien de la fin du 16e, début du 17e, il ne connaissait pas son histoire. Donc, on s'est lancé dans une brève histoire de sa vie, Giordano Bruno, et on travaillait justement sur une pièce, une adaptation d'un texte de Giordano Bruno qui s'appelle Le Candelaio, et on a eu envie, on avait très envie qu'il nous fasse un poème en musique de Giordano Bruno pour la pièce, hein, parce qu'on pensait que l'univers, parce que c'est une pièce qui traitait de l'univers et de la multiplicité de la relation, tant sexuelle que philosophique, que théologique, dans une pièce qui s'appelle Candelaio, le sous-titre qui est très intéressant, qui aurait pu être un sous-titre de Ferré, s'appelle Le philosophe fessé. Et donc, on avait très envie de ça. Et quand on lui a raconté l'histoire de Giordano Bruno, il est devenu fou. Il a piqué une colère, comme on nous a dit qu'il en piquait souvent. Et c'est vrai que c'est pas une légende, moi je l'ai vu. Et donc là, c'était magnifique. Hein, une colère de jeune homme, de résistant par rapport à, justement, à ce pouvoir établi, que ce soit l'Église, l'État, tout ce qu'on veut, mais à ce moment-là, c'était l'Inquisition, évidemment, donc le plus redoutable, qu'il ne faut pas oublier, parce que les Inquisitions, elles existent toujours, et celle-là, elle a été très forte, mais l'Opus Dei, incroyable, mais ça existe toujours. Et donc, beaucoup y sont mêlés. Mais là, il a piqué une colère, et il a dit « Je te le ferai. Je te le ferai, ton truc. » Etc. Bon, c'était superbe. C'était magnifique, d'emphase, de poésie, de cette colère, de ce truc. Et
le moment était superbe, ouais, le texte. Il l'a fait finalement ?
Et il l'a fait. C'est pour ça que je te dis ça. Superbe.
Voilà pour ce premier entretien avec un son vraiment calamiteux, hein, j'en suis désolé. Quelques semaines après, le comédien qui joue la pièce Léo et lui avec Jean Pétremant, Léonard Stefanica, rendait visite à l'émission et il nous parle dans ce court extrait du Ferré Club numéro 114 du 22 janvier 2020, il nous parle de la manière dont les mots de Léo résonnent en lui, ce que ces mots suscitent en lui.
Dans toute cette pièce, moi, à chaque fois, je reprends, à chaque fois que je joue, je prends une claque sur les mêmes passages, mais à chaque fois, je prends une claque sur un passage où je me dis ah, Et il y a cette révolte poétique, mais bon, on sait même plus si c'est de la poésie ou pas, parce que c'est tellement ça touche tellement des endroits. C'est organique, en fait. C'est ça que j'aime, je crois. C'est que c'est organique. Et le punk, pour moi, c'est organique. C'est-à-dire que c'est l'énergie, quoi. C'est ce qu'on ressent à l'intérieur, où tout est possible, où il y a une espèce de porte qui s'ouvre d'un coup, et on n'a peur de rien, et on va y aller, même si on va se brûler les ailes. Et puis, et moi, c'est quelque chose qui me parle, ça, qui m'a toujours parlé, que j'ai toujours cherché, un peu moins, parce que même si je suis jeune, je vieillis un peu, mais voilà, se brûler les ailes, ça m'a toujours plu, et je trouve qu'il y a quelque chose comme ça dans Ferré. Il y a une espèce de révolte. C'est noir, c'est sombre quand Jean fait Basta, là, dans le spectacle. Et bon, voilà, je trouve ça, c'est incroyable, quoi. Je trouve ça magnifique, et du coup il y a cette espèce de coup de poing, quoi, et ça, je pense que c'est alors autant c'est pas du tout ce que j'ai eu dans la musique en découvrant la musique de Ferré, mais dans les textes ça m'a paru comme évident. Et c'est un peu banal ce que je vais dire, mais si j'avais dû écrire, j'aurais écrit, je pense, quelque chose comme ça, parce que en fait ça résume une façon d'être, une façon de penser qui me parle totalement, quoi.
Tu te reconnais dans beaucoup de,
bah ouais,
de ces mots.
En fait, je me reconnais dans beaucoup de ces mots.
Ouais.
Et il y a quelque chose de mystique aussi qui ouais, il y a quelque chose de mystique dans les Chants de la Fureur, un truc qui parle de mais c'est pas New Age, ouais, c'est l'homme, quoi, mais tout ce qu'il y a au-dessus de l'homme, et tout ce qu'il y a à l'intérieur en microscopique, et en même temps avec un coup de poing, et puis une espèce de fragilité, de faiblesse vis-à-vis de la femme, qui est presque même des fois un peu pathétique, mais enrobée de poésie. Puis ça revient d'un coup à une espèce une espèce de noirceur, presque légère, une noirceur comme ça de révolte.
Ouais,
une
noirceur légère.
Ouais, ouais.
Au début 2020, le Ferré Club va à Liège. Va à Liège voir l'ami Luc Baba, et je vais donc retrouver Luc. Je vais rencontrer Guy Lukowski, et puis je vais également croiser la route de Michel Fellner. Et je vous propose donc maintenant le petit quart d'heure liégeois, hein, pour ainsi dire, de l'émission. On va commencer avec le Ferré Club numéro 112, le 8 janvier 2020, avec Luc Baba, qui est écrivain, chanteur et comédien, et qui nous parle de la naissance de son album Coma Ostende, dans lequel il reprend quelques chansons de Léo.
C'est une histoire typique qui me ressemble, c'est-à-dire que je n'ai rien demandé. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas bien. Demander, frapper aux portes. Et donc j'ai la chance dans mon histoire, que ce soit par rapport au livre ou que ce soit par rapport au disque, puisque j'ai avant tout un chemin de romancier, d'auteur, c'est que j'ai la chance d'avoir été contacté et d'avoir eu des demandes et des commandes. Et c'est un peu le cas ici, avec un début très particulier, dont je ne devrais peut-être pas parler, mais on mise sur la carte de l'honnêteté, donc allons-y. C'était un soir d'ivresse après une dispute amoureuse, comme j'en connais quelquefois. Et celle-là m'a valu donc une belle suite. Je suis rentré chez moi, donc un jour de dispute, j'ai bu une petite bouteille de vin rouge, de qualité, heureusement, sans quoi j'aurais chanté Carlos. Et je me suis mis au clavier et je me suis filmé avec mon Pentax, chantant un petit air de Souchon. C'était « J'étais pas là », qui faisait allusion à la dispute en question. Et j'ai posté ça sur Facebook, comme on fait maintenant. Et je l'ai enlevé le lendemain, mais entre-temps... La directrice des Midis de la Poésie à Bruxelles avait entendu l'extrait, et elle m'a appelé dans les semaines qui ont suivi. Elle m'a appelé pour me demander si je voulais bien rendre hommage à Léo Ferré à Bruxelles, dans ce qu'on appelle les Midis de la Poésie, une petite formule formidable sur le temps de midi, où des poètes viennent parler ou réciter des textes ou chanter. Et donc ici, il était question de rendre hommage à Ferré avec Manu Lanuel, que tu connais, qui est un grand interprète de Léo Ferré. J'ai accepté le défi un peu à reculons au début, parce qu'il était question que je me mette au piano, et je débutais au piano, donc c'était un grand challenge pour moi. Et entre-temps, donc, j'ai revu l'éditrice d'Adodan, des éditions Adodan, qui m'avait publié en proposant deux biographies, Charlie Chaplin et Jacques Brel, qui étaient déjà sorties. Donc on se voyait pour que je signe une réédition, pour une réédition de la biographie sur Jacques Brel. Et quand elle m'a demandé de parler un peu de mes projets et que j'ai évoqué Ferré, elle a tout de suite, dans la seconde, proposé que j'écrive une biographie consacrée à Léo Ferré pour enfants. Voilà, ce que je n'aurais jamais osé faire de façon spontanée. Et donc, ben, dans ces moments-là, tu as appris en effet la parution de cette biographie. C'est alors qu'on s'était vu la première fois et tu as demandé si j'avais un enregistrement à proposer où je chantais moi-même du Ferré. J'ai dit oui, mais j'avais rien. Donc j'étais retourné sur Facebook, posté un petit mot en disant est-ce que quelqu'un peut m'enregistrer assez rapidement chantant du Ferré. Je me suis retrouvé donc à ce moment-là chez, des circonstances particulières, par le biais d'une lectrice qui suit ce que j'écris et qui connaissait, un ingénieur du son. Cet ingénieur du son, Dominique Martineau Lagarde, m'a proposé d'aller enregistrer en effet un titre ou l'autre en me mettant au clavier. Et il a été enchanté à proposer qu'on enregistre un album. Voilà comment tout cela est né.
J'étais chez Luc. Luc avait eu la gentillesse de me recevoir chez lui à Liège et c'était un moment fort agréable. Et je continue ce petit parcours à Liège. Je retourne un petit peu dans le centre de Liège chez Guy Lukowski. Guy Lukowski qui est un musicien, un guitariste. Et lors du Ferré Club numéro 113 qui a été diffusé le 15 janvier 2020, Guy nous parle de sa présence sur la chanson La Tristesse, parue sur l'album La Violence et l'Ennui en 1980. Guy, en tant que guitariste, bien évidemment, guitariste soliste, intervient dans cette chanson La Tristesse. Il va nous parler de la rencontre avec Léo et on entend au début de cette petite vignette sonore, on entend la voix de Francis Danlois à qui je passe un bonjour par cette occasion. Voilà.
Ça va Guy? Tu es passé à côté de moi sans me voir, je suis très vexé. Tu es passé à côté de moi sans me voir et sans me dire bonjour.
Quand et où?
Maintenant.
Mais non, tu parlais avec le monsieur. Un étranger, un maladroit.
Bonjour Guy. Bonjour David.
Salut, je m'appelle Guy.
À ce moment-là, moi je fonctionne déjà dans mon univers, les centres culturels, les salles plutôt modestes, et je n'ai pas accès à ce qu'on appelle l'affiche. Mais il sait que dans son entourage, il y a un guitariste qui sait jouer de la guitare. Alors il m'a repéré en deux temps, il a téléphoné à la RTBF, à la radio belge, à Liège, et puis il est tombé sur moi, en deux temps, quoi. Et alors j'étais impressionné, que j'étais presque au garde à vous, hein. Il me dit, je t'ai fait une chanson, hein, c'est pour toi, hein. C'est pour toi que je l'ai fait, hein. Tu es content? Tu la mérites pas, hein. Parce que, on va t'envoyer la partition. Bon, en même temps, écoute... peut-être qu'il ne faut pas que tu le fasses. Enfin, viens quand même. Enfin, bon. On me fait débarquer à Milan. Il y a un orchestre symphonique. J'ai reçu évidemment le score, parce que c'est une partition peut-être proche d'un moment de concerto pour la seule guitare qui joue avec lui. Il y a la guitare et lui, et puis au milieu, il y a l'orchestre qui entre. Et après, de nouveau, la guitare et lui. Et c'est très concertant, comme on dit. Donc, il faut savoir jouer de façon... ultra classique. Alors, je vais le trouver après, que j'avais étudié, évidemment, énormément. Je lui ai dit, écoute, Léo, il y a un problème, il y a des notes qu'on peut faire. Tu te démerdes, tu me fais pas chier, hein, tu te démerdes. Il est évidemment très, très impressionné, lui-même, de diriger l'orchestre symphonique, à torse nu. C'est un homme qui est bien bâti, hein, c'est pas un petit maigrelet, hein, c'est un costaud, hein, qui est bien bâti, et l'orchestre avait très envie que ça se passe bien pour lui. On est à Milan, en Italie, les musiciens italiens, ils sentent qui est l'autre. Et c'est comme au restaurant, quand tu aimes les pâtes, ils t'en servent deux fois, quoi. Alors, moi, on m'avait mis dans une cage de verre, et je suis, isolé du bruit de l'orchestre pour que la guitare, qui est délicate, passe. Et je me dis surtout, il faut qu'à la première prise, si c'est possible, je joue bien. Parce que pour un orchestre symphonique, tout est facile. Chacun a sa note, elle a été écrite pour l'instrument. Quand on écrit pour la guitare, tu prends une loupe et tu commences à réfléchir. Il fallait garder un ré quatrième doigt ici et tricoter dans tous les sens. C'est très difficile. Alors, je n'ai pas envie de dire que j'ai fait un exploit, mais j'ai eu le bonheur à la première prise que ce soit OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après, il met sa voix, évidemment. Je suis un peu ému. ce tome dont j'ai volé le disque quand j'avais 12-13 ans, il est en train de chanter sur ma musique, sur ma guitare. C'est assez émouvant, tu comprends, hein? Alors, il chante, il fait deux prises. On ne sait jamais, hein, deux prises.
Et puis, assistes?
Ah oui, je suis là, tu penses bien, je suis là, en cabine, je suis là en cabine. J'ai eu le bonheur avant ça, c'est que les musiciens tapent avec l'archet sur leur pupitre. Ça veut dire, t'as bien joué, mon gars. C'est... Mais en Italie, c'est comme ça, hein. Il y a un don de soi. Et après, ils chantent, et ça va très bien. Puis il y a le mixage, un peu raté, parce qu'à la seconde partie, ma guitare sonne mieux qu'au début. Mais peu importe, je m'en fous. Je suis en retard, c'est fini. Et puis, ce disque apparaît, ce disque apparaît, et pour moi... C'est pas un tableau de chasse, mais pour moi, c'est un souvenir très, très, très impressionnant. Parce que, n'ayant aimé que lui et quelques autres quand j'avais 10-12 ans, quand je découvre le disque, me voilà plus sur un disque. C'était étonnant, quoi. Donc, il y a de ma part rien d'autre qu'un hasard bienvenu. On me fait venir là-bas, je joue, et après, ben, nous voilà. Après, te voilà.
Oui, par rapport aux conséquences.
Voilà, Guy Lukowski qui a volé les disques de Léo. Je vous invite à réécouter cet entretien savoureux pour savoir comprendre pourquoi Guy a volé ses disques. Dernier moment à Liège. Alors, ça se passe plus à Liège cette fois-ci, ça se passe dans le studio de Radio Libertaire. C'est Michel Fellner, alias Felliner, alias également God Michel, qui vient le 4 mars 2020 lors du Ferry Club numéro 120. Michel est donc chanteur, musicien, et il nous parle d'un souvenir militant.
Une anecdote assez. J'en ai plusieurs qui m'ont. Je ne connaissais pas encore tout Ferré. Notamment un album qui s'appelle Les Interdits de Ferré. Quoi. Donc, tu vois lequel c'est, avec les 400 cons. Je vais voir Ferré à Bruxelles. Donc, c'était à l'époque où il y avait Solidarnosc. Je ne sais pas si tu vois Solidarnosc en Pologne. Et alors, il y a des journalistes belges qui se font enfermer, qui vont créer une radio libertaire en Pologne et qui se font arrêter en Pologne avec les Chevaliers Affaires, des conneries pareilles. Et Babar, je ne sais pas si tu vois qui c'est Babar, qui travaille à Radio Libertaire Bruxelles, donc Alternative Libertaire, je ne sais pas si tu vois ce journal.
Oui, oui.
Le journal Alternative Libertaire. Et ils ont une radio aussi à Bruxelles qui s'appelle le même nom qu'ici, je crois, Radio Libertaire. Et Babar lui prend deux, trois petits ustensiles et va créer une radio libre en Pologne, quoi. Il va essayer tout le bordel en Pologne, à Solidarnosc. Et en soutien à Babar, qui est enfermé en Pologne, les Anards de Liège et de Bruxelles organisent un concert de Ferré.
Très bien.
À l'université de Bruxelles, à l'ULB. Là, je vais le voir, quoi. Et là, il chante une chanson, donc pour l'anecdote, quoi. Et là, j'entends pour la première fois les 400 coups. Je me dis, oh putain, j'avais jamais entendu cette chanson-là. Et alors, je guettais. Chaque fois, quand Ferré sortait, je me disais, putain, c'est une nouvelle chanson, quoi. Il la présente pas. Je me dis, c'est une nouvelle chanson. Sur son prochain album, elle va y être. J'achète, merde, il n'y a pas les 400 coups. Il n'y a pas. Comment c'est possible, ça? Et je sais plus comment.
À chaque parution, tu guettais la chanson.
Mais oui, ouais. Parce que ça m'a pris quand même. J'ai l'impression que ça m'a pris un ou deux albums, me dire, tiens, je vais avoir les 400 coups sur cet album-là. Mais c'était à l'époque, le CD n'existait pas, hein, donc encore.
Bien sûr.
Donc le CD n'existait pas.
Et encore moins les plateformes internet et tout ça. Hein.
Oui, donc tu ne pouvais pas taper pourquoi les 400 coups. Et même tu ne connaissais pas le titre de la chanson. Mais ça revenait donc 400 coups. Et je ne sais pas comment ça se fait. Donc et voilà, j'entends pour la première fois les 400 coups. Après, j'ai acheté l'album Les 400 coups parce qu'il n'existait que dans un coffret. Chez Barclay, quoi, il y avait deux coffrets donc. Et dans un coffret, il y avait le disque. J'avais tous les disques, sauf celui-là. J'ai acheté le coffret exprès pour avoir ce disque-là. En gros, hein, tu vois, le truc, le bordel. Ouais. Quoi, merde, il me le faut absolument. Merde, il est là-dessus, quoi. Il n'existait que comme ça, quoi.
Lors de l'émission, on va faire une première pause musicale dans cette émission. Il y aura quand même un ou deux moments musicaux. Lors du Ferry Club numéro 125, le 8 avril 2020, on est en plein confinement. On a enregistré cet entretien quelques temps auparavant. Natacha Bezrich rend visite au Ferry Club. Natacha Bezrich est chanteuse et de manière traditionnelle, j'ai envie de dire, hein, si vous me permettez le mot, je propose aux invités, avec un ES sans, de l'émission, de choisir la chanson avec laquelle nous allons terminer l'émission. Et donc je propose à Natacha et elle me dit bah, si tu veux, ou je sais plus si on se tutoie, je sais plus, si tu veux, je peux te chanter une chanson. Ah, incroyable! Alors c'était pas prévu, c'était absolument pas préparé. Natacha a fait de gamme avant et elle me dit bah ouais, je peux te chanter une chanson, je peux te chanter la chanson triste si tu veux. La chanson triste, tout de suite par Natacha Bezrich dans le Ferry Club sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Quand la peine bat sur ta porte close, donne-lui du feu pour l'amour de Dieu. Si ta flamme est morte et que tout repose, elle s'en ira. Je n'ai pas fait mieux. J'avais des habits taillés aux nuages. J'avais des cheveux comme des drapeaux et flottait au vent ma crinière sage. Lors j'ai tout perdu, restait que la peau. Je m'en suis allé sous 10 pieds d'argile, coincé nez à nez par un ciel de bois, et disons mes vers dociles qui m'auront rimé autrement que moi. Quand la peine part sur ta porte close, donne-lui du feu pour l'amour de Dieu et s'embrasera la dernière rose que j'irai cueillir en guise d'adieu. Et s'embrasera la dernière rose que j'irai cueillir entre deux adieux.
Merci Natacha. Alors effectivement, il y a des propos succulents de Natacha dans cette émission que je vous invite toutes et tous à réécouter, mais j'ai choisi ce moment musical parce que vraiment, j'étais fort agréablement surpris, c'était vraiment totalement inattendu et voilà, et j'ai envie de dire presque enchanteur, hein. Le mot est peut-être un peu fort, mais c'était pas loin, c'était un très très beau moment, vraiment. Le Ferry Club numéro 136, le 1er juillet 2020, et c'est la première fois, et on va l'entendre une paire de fois dans cette émission, c'est la première fois que je rencontre Jean-Baptiste Foulquier, auteur, compositeur, interprète, également écrivain. Et lors de ce premier passage, de cette première rencontre, eh bien, une des premières questions évidentes hein, que je pose aux invités de l'émission, c'est comment as-tu connu Léo Ferré finalement? Comment as-tu rencontré cette œuvre?
Léo, il est venu finalement du choc que j'ai eu avec un autre artiste. mais qui m'a fait rencontrer la chanson. Ça, par contre, je m'en souviens bien. C'était l'été de mes 15 ans. J'ai flashé sur un disque de Francis Cabrel, Quelqu'un de l'intérieur, et tout ce qui racontait, que racontait la plupart de ses chansons me parlait. Il y avait un esprit de révolte. Je pense que Cabrel a hérité de Dylan. Donc en termes d'influence, c'est pas mal. Et c'est vraiment un moment où, bah, comme beaucoup de gens, quand on est ado, il y a plein de choses qui se passent dans la tête. Il y a des émotions qui sont hyper sensibles. Et la chanson, ça a vraiment été le vecteur où j'ai pu raccrocher mes émotions. Et donc je me suis mis à dévorer les artistes, alors bon, les artistes de cette génération, de ce qu'on appelait à l'époque la nouvelle chanson française, et qui, je trouve, est énorme, parce qu'entre 75 et 80, il y a des dizaines d'artistes que je trouve majeurs qui ont émergé de la scène française, ou d'autres comme Gainsbourg, Nogaro, qui ont été encore plus écoutés. Enfin, tout n'a pas été facile pour eux, mais en tout cas, ou Higelin, voilà, il y a plein d'artistes qui ont explosé, on va dire, le répertoire de la chanson française. Et évidemment, en s'intéressant à la chanson française, forcément, j'allais croiser la route de Léo. Alors, c'était pas forcément facile. C'était pas comme aujourd'hui où on avait Internet et on pouvait facilement accéder à autant de ressources qu'on voulait. Donc, il fallait prendre son vélo, faire 3-4 kilomètres pour aller à la bibliothèque municipale où on pouvait prendre 3-33 tours. On revenait, on pédalait, on les mettait sur la platine, on enregistrait ça sur des cassettes pour pouvoir faire un autre aller-retour dans la journée. Et on avait de quoi écouter dans la semaine.
T'étais à Paris à ce moment-là ?
Non, j'étais en province.
D'accord.
Voilà, je suis venu à Paris pour les études et surtout parce que je savais que c'était l'endroit pour la musique.
Ouais.
En tout cas, c'est ce que j'imaginais à l'époque.
Ouais.
Et bien sûr, c'était aussi l'endroit mythologique. Et en écoutant Ferré, forcément, on rêvait de Paris et de la vie d'artiste. Et je crois que le premier disque que j'ai écouté de Léo Ferré, un 33 tours qui devait pas être dans un état extraordinaire, c'était vraiment les premières chansons. Soit c'était peut-être l'album du Chant du Monde, ou alors quelques morceaux des années 50. Donc, c'est quelque chose qui m'a un petit peu interpellé. J'ai pris Léo parce que j'étais très curieux. Je prenais vraiment tous les artistes de chansons. Et bien sûr, on lisait partout que le triumvirat, c'était Brel, Ferré, Brassens. Donc, aimant les deux premiers, je me suis dit, il faut découvrir Ferré. Et c'est vrai que le premier disque aurait pu être un coup d'arrêt, parce que si on prend ces vieux enregistrements qui, à l'époque, n'étaient pas remasterisés, qui pouvaient être sur des disques rayés, on n'était pas du tout dans le son. C'est l'époque des premiers CD avec Dire Straits, tu vois, pour situer. Donc on est vraiment dans un autre monde, mais la magie a opéré. Et c'est vrai que très vite j'ai été fan des premières chansons, quoi, du Chant du Monde, hein, la vie d'artiste, les forêts, les forains, Monsieur Toutblanc, à Saint-Germain-des-Prés, l'île Saint-Louis.
C'est par ce moment de l'œuvre que tu es rentré dans l'œuvre.
Oui, c'est vraiment par ce moment de l'œuvre. Et j'aurais tendance à dire que dans mon musée imaginaire de la chanson française, donc ça c'est totalement personnel, hein, mais je suis vraiment commencé la chanson française qui m'intéresse à 46 quand Ferré rencontre Francis Claude. Il commence à écrire la vie d'artiste, et puis qu'il écrit ses autres chansons quand il s'installe à Paris, à défaut de les enregistrer tout de suite, mais enfin bon, c'est là qu'il les écrit. Alors je sais bien que historiquement, avant, il y avait Traîné qui, je pense, avait fait une révolution, et c'est vrai, quand on écoute, on comprend comment tous les grands qui ont été après ont été influencés par Traîné. C'est lui qui a lancé le truc. Mais émotionnellement, moi, ce qui me touche au départ dans le chant français, bah, c'est Brassens qui est dans l'impasse Florimond en même temps qui écrit ses morceaux, et Ferré qui écrit ses premières chansons dans ces époques-là. Pour moi, c'est le socle de la chanson, et qui m'a amené après à l'écriture.
Jean-Baptiste Folquet, qu'on retrouvera un peu plus tard, bien évidemment, dans cette émission, puisqu'il est, avec Alaric Perrollier, tout de même, l'invité récurrent de cette même émission. Alors, le Ferré Club numéro 152, le 4 novembre 2020, Josette Khalifa est invitée. Josette Khalifa est chanteuse, elle est également écrivain, et elle nous parle, elle aussi, de sa découverte de Léo Ferré.
J'ai découvert Léo Ferré, effectivement, quand j'ai commencé à chanter, dans les années 90-92. Voilà, c'est l'année à laquelle, pour laquelle, effectivement, je me suis lancée dans la chanson, comme dit Salvador. Et j'ai découvert, là, pour le coup, j'ai découvert Léo Ferré. J'ai écouté, j'avais été le voir en concert plusieurs fois. Et j'ai vraiment ressenti beaucoup, beaucoup de, d'émotion dans ses textes. C'est vrai qu'à l'époque, je n'étais pas très fan de l'interprétation de Léo sur certains morceaux. J'adorais aller le voir en concert parce que c'était quelqu'un d'intrépide, il pouvait piquer des colères, il était grandiose. Ça passait moins, je trouve, sur disque. Mais je trouvais vraiment que ses textes, sa poésie, la profondeur de ce qu'il pouvait dire à travers une chanson me touchait énormément. Voilà. Et donc je me suis pris d'affection, on va dire, pour ce répertoire. Et j'ai découvert aussi Jean-Roger Cossimon.
Par l'intermédiaire de Léo, vous l'avez
découvert. Oui, c'est comme ça que j'ai rencontré, on va dire, l'univers de Jean-Roger Cossimon, mis en musique par Léo Ferré, et que pour moi, vraiment, c'est ça que j'ai eu envie de faire, en tout cas sur cet album, parce que pour moi, c'était vraiment une belle rencontre. Une belle rencontre de la poésie, on va dire, tendre, de Jean-Roger Cossimon, et on va dire de la fougue d'Aléo Ferré.
Le mariage des deux vous a séduit.
Ouais, voilà.
Comment est-ce que vous avez découvert cet alliage Ferré-Cossimon avec l'album Les Loubards, qui est dédié entièrement à Cossimon, ou avec d'autres
chansons ? Je crois que j'ai écouté beaucoup. Ouais. Hein, à l'époque, j'ai écouté beaucoup. J'avais rencontré déjà, parce que Léo Ferré, je l'ai pas chanté tout de suite. Moi, j'ai commencé dans la rue. Donc, dans la rue, je chantais plutôt Piaf, Fréhel, Damia. Vous voyez, enfin, ces chansons un peu à gouaille. Parce que dans la rue, quand j'ai chanté dans la rue, j'étais a cappella. Hein, j'avais pas de micro, j'avais rien. Donc, il fallait attirer le chaland, pour le coup. Et donc, Léo Ferré, c'était trop intimiste, presque, pour chanter dans la rue comme ça. Mais c'est après que j'ai chanté Ferré dans la rue, parce que, voilà, avec le temps, j'ai quand même chanté 4 ans dans la rue, et avec le temps, j'avais un public. Et donc, on avait des rendez-vous avec les gens. Et là, j'ai commencé à mettre du Gaston Coutet et du Léo Ferré, et bon, voilà. Ça faisait un moment comme ça d'émotion, de poésie. Chez Ferré, j'ai trouvé cette espèce de mélancolie qu'il n'y a pas chez Piaf. Chez Piaf, c'est de la noirceur, c'est non rien de rien, c'est l'hymne à l'amour, etc. Enfin bon, c'est des histoires d'hommes à femmes, c'est des choses comme ça. Avec Ferré, c'est vraiment Ferré Cossimon, c'est la grande et la très belle mélancolie, quoi. C'est la solitude de la vie à un niveau très profond. C'est, je sais pas comment vous expliquer. Enfin,
oui, mais je perçois ce que vous dites. Hein.
Vous voyez, donc
oui, très bien. Voilà, Josette Khalifa, une très agréable rencontre également. Émission numéro 152, le 4 novembre 2020. Je vous parlais des invités récurrents, Alaric Perrollier en est un, bien évidemment. J'ai d'ailleurs sauté, j'ai un peu fait exprès de sauter un entretien qui avait été consacré à la période 1955-1956, la rue. Celles et ceux qui suivent régulièrement l'émission savent pourquoi, mais j'ai un peu fait exprès. Et là, on va retrouver Alaric dans les émissions numéro 159 et 160 du Ferré Club, diffusées les 23 et 30 décembre 2020. Alaric qui travaille sur l'œuvre de Léo, qui notamment s'occupe du fil Facebook. J'ai donné le nom, c'est rare, du fil donc sur un réseau social de Léo Ferré, et qui donc collabore avec les éditions La Mémoire et la Mer, qui est également écrivain, Alaric, parfois conférencier également sur Léo Ferré, hein, cela dit en passant. Alors j'ai choisi, dans ces deux émissions, 159 et 160, étaient consacrées à l'album Amour Anarchie, et j'ai choisi ce petit moment un peu plus personnel où Alaric livre des choses non pas factuelles mais un peu plus de subjectives sur son rapport à l'œuvre de Léo. Que nous écoutons tout de suite donc ce petit moment extrait de l'émission numéro 159.
Tu me poses une colle parce que, comme toi, je n'ai pas connu l'ère du vinyle du temps de sa splendeur et donc je n'ai pas découvert les albums de Léo dans leur intégrité originale. J'ai connu la première intégrale Barclay, dite Le Pavé, qui était orchestrée par Richard Marsan et qui était l'ancien directeur artistique de Léo chez Barclay, et son assistante Thérèse Chasguet. Et le principe de cette intégrale était qu'en fait, les albums, le contenu des albums était souvent très éclaté. Voilà, il y avait plusieurs albums qui se chevauchaient sur un seul et même CD. C'était le début, enfin, c'était l'ère du CD dans sa première phase, on va dire. Et c'est-à-dire que comme il y avait beaucoup plus de place que sur les vinyles, les producteurs de musique avaient tendance à vouloir valoriser commercialement leur nouveau support en disant voilà, on fait plus de 60 minutes de musique et donc bon, les albums originaux et donc éventuellement le parcours d'écoute qui avait été pensé par l'artiste n'était plus respecté. Et il y avait aussi, c'était des visuels qui étaient différents. Donc, si tu veux, c'était plus des collections de chansons qu'après, mentalement, on pouvait essayer de recréer dans leur comment dire, organisation d'origine, sachant qu'il y avait encore peu de choses. Moi, j'ai écouté ça... ça me ramène à mes jeunes années. Je saurais pas te dire exactement la chronologie. C'était hier, n'est-ce pas? Le temps file vite en un claquement de doigts. Non, je saurais pas te dire exactement quelle a été la... Je me souviens par quoi je suis rentré dans Léo, c'était les chansons d'Aragon. Et ensuite, je pense que j'ai fait effectivement d'abord la période Barclay, et ensuite un peu, j'ai dû faire la période Toscane, et ensuite les années Odéon. Grosso modo. J'ai pris le train en marche, il y a eu des rééditions dans les années 2000, et là je redécouvrais donc certains albums des années Odéon, qui pareil étaient sortis en intégrale chez Sony dans les années 90, et qui tous les contenus étaient éclatés. Tout ça a été remis en ordre en 2003 par une intégrale qui était pilotée par Thérèse Chasguet, où pour la première fois on retrouvait les visuels d'origine et les tracklists, ou les listes de titres en français, originaux. À peu de choses près. Et donc là, je pense que ça date peut-être de cette intégrale-là où j'ai vraiment pu appréhender Amour Anarchie dans sa totalité, sachant que Amour Anarchie était publié sous sa couverture de double album, parce que c'est un album qui a la spécificité d'être sorti en deux volumes, puis en double album. Donc, il ne représente pas, si tu veux, en tant qu'album... dans ma découverte de Léo, une surprise particulière, si tu veux, les surprises, j'allais de surprise en surprise au fil des chansons, en fait. Et donc après, c'est peut-être a posteriori, en commençant à réfléchir aux choses, à l'œuvre de Léo, à sa trajectoire d'artiste, que j'ai reconstruit mentalement une image de chaque album, si tu veux. Amour Anarchie ne représente pas quelque chose de plus singulier pour moi que, par exemple, les chansons d'Aragon où il n'y a plus rien.
Alaric Perrollier, que je remercie à ce moment-là, mais je lui dirai un petit merci à la fin. Le 3 février 2021, et déjà 2021, lors du Ferré Club numéro 165, Thomas Enko est invité. Thomas Enko est musicien, il est pianiste, il est également compositeur. Il nous parle de sa découverte de l'œuvre de Léo. C'est un moment assez émouvant que je vous invite à réécouter parce que c'est pas ce moment que j'ai choisi. J'ai choisi le moment où il revient à l'œuvre de Léo après s'en être éloigné durant pas mal d'années. Et voilà les impressions qui sont les siennes au moment où il revient sur l'œuvre de Léo.
Et c'est revenu plus tard. Alors je sais pas très bien comment. Peut-être parce que quand j'ai sorti mes premiers disques, j'ai commencé à être invité à participer parfois à des émissions de radio où parfois on me demandait de donner, je sais pas, 5 morceaux ou 10 morceaux qui m'avaient marqué, qui avaient un peu construit l'artiste que j'étais, etc. Et donc forcément, j'avais des trucs très très prégnants dans ma mémoire. Il y avait un air de Strauss comme chantait ma mère comme berceuse. Ça, c'était le premier souvenir concret de musique que j'avais. Il y avait cette fameuse sonate de Beethoven que mon père me jouait. Il y avait, avec le temps, Léo Ferré. Donc forcément, je mettais dans la liste. Et donc, j'ai commencé à réécouter cette chanson-là, et puis d'autres aussi, et à trouver un sens plus littéral aux chansons, aux symboles, à essayer de comprendre, à essayer de lire des choses là-dessus, aller sur internet voir si des gens avaient écrit des choses, des interprétations de certaines chansons, notamment celle qui est hyper énigmatique, La mémoire et la mer, que récemment j'ai même chanté moi-même.
Oui, j'ai lu ça, oui.
Ouais. parce que voilà, j'ai essayé de me rapprocher de ça et de me réapproprier un peu ça qui finalement fait partie de mon histoire de musicien. Je suis sûr que ça m'a marqué et que ça a marqué ma façon de composer, de jouer, d'envisager la musique très profondément, sans que je me rende compte.
Et lorsque tu es plus adulte, à ce moment-là, est-ce que, enfin, bien évidemment, la perception des mots de Léo est différente, et est-ce que du coup, ça renforce ce goût que tu as pour lui ?
Complètement, ouais. Complètement. Ah oui, complètement. Ah bah oui, c'était un peu comme, je sais pas très bien comment dire, mais c'est comme si vous recevez un cadeau un jour et c'est génial, vous en servez, vous l'aimez, vous amusez avec, je sais pas, n'importe quoi. Et puis un jour, des années plus tard, vous le retrouvez et là, vous découvrez qu'il y avait un usage que vous ne connaissiez pas ou une fonction, je sais pas, et puis vous le redécouvrez et c'est encore mieux. Donc là, ouais, ça m'a totalement fait ça.
Le sens, à ce moment-là, t'es révélé d'une autre manière.
Ah bah quoi, oui, j'ai été ravi d'être un adulte capable de comprendre peut-être certainement pas tout, mais en tout cas beaucoup plus, et de me rendre compte que c'était pas du tout affadi ou affaibli par rapport au sentiment que j'avais éprouvé quand j'étais petit, mais au contraire vachement renforcé, parce qu'il y a aussi plein de musique que j'adorais quand j'étais petit, que j'aime un peu moins maintenant, où je me suis dit bon, ok, ça a un peu vieilli, ou moi je suis plus trop attiré par ça. Là, pas du tout, bien au contraire.
Thomas Enko, à l'instant même, lors du Ferry Club numéro 169, le 3 mars 2021, Trublion et Superfou du groupe La Vie d'Artiste, groupe de rap, qui sont donc Trublion et Superfou, qui sont deux musiciens, viennent nous parler d'un album ancien, hein, qui est paru en 2013, qui s'intitule Ferré ce rap. Donc il nous parle un peu de la conception de cet album, Léo Ferré repris par des rappeurs, Léo Ferré mis en rap, ce qui n'est quand même pas une mince affaire, mais ce qui est assez original et ce qui vaut quand même le détour, hein, ne serait-ce que pour par curiosité, j'ai envie de dire. Ensuite, le plaisir peut en découler ou pas, mais ça, c'est autre chose. Il nous parle donc de ce Trublion et Soupa, nous parle de la conception de cet album, et ils vont également, en fin d'entretien, nous expliquer un peu un débouché totalement inattendu à cet album Ferré ce rap.
Et puis après, il y a eu beaucoup de travail d'action culturelle en prison, dans les établissements scolaires.
Avec ce projet.
Ouais. Voilà, ouais, ça a démarré. En fait, pour nous, tout a démarré avec ce disque. Donc, et ouais, ça a permis de faire beaucoup de choses avec différents publics.
Il y a pas mal de profs de français qui faisaient des commandes en disant des ateliers d'écriture par le biais de Léo Ferré et du disque pour amener les jeunes à écrire des choses un peu plus personnelles ou poétiques.
Ah, très intéressant.
Parce que c'est souvent un biais qui est utilisé comme entrée vers du français un peu soutenu, mais à la fois personnel, parce qu'il avait sa langue, Léo Ferré. Il parlait pas que le français, il parlait son français. Donc c'est une manière aussi d'initier les jeunes à ce qu'ils cherchent dans le rap, souvent spontanément, les jeunes, c'est de s'exprimer et de leur dire bah, vous avez vos mots à vous, mais vous avez avant le rap. C'est en ça peut-être qu'il y a une filiation, c'est aussi des profs s'en servent pour dire avant le rap, il y avait d'autres gens qui s'exprimaient avec de la radicalité, des tensions rythmiques. Mmh. Et il y a peu à avoir une filiation et ça fait le pont entre la littérature et l'expression de la littérature au quotidien.
Ouais.
La poésie aussi.
Donc
ouais.
On a fait beaucoup, on a eu des commandes comme ça, et puis dans les salles...
Attends, quand tu dis des commandes, c'est des...
C'est des propositions de projets, on a monté des projets dans des établissements scolaires,
voilà, pénitentiaires... Oui, nous disaient qu'est-ce que vous pourriez faire autour de Ferré, et nous on a tant de créneaux à offrir à des jeunes, avec tant de budget, qu'est-ce que vous pouvez nous faire ? Donc c'est en ça que j'appelle des commandes.
D'accord, ok.
Mais ça peut être justement des créations... de morceaux avec des jeunes, et puis après on les restitue. Donc c'est marrant.
En gros, pour te dire le truc un peu schématique, on a eu comment le matériau de Ferré était utilisé, par exemple, dans un collège, dans une classe de 3e. On a eu de la reprise pure des jeunes d'un texte de Ferré, pourquoi pas avec nous derrière basse-batterie aux instruments. Ouais. Voilà, carrément, on va s'inspirer de ce morceau de Ferré, mais on va se le réapproprier à notre époque, des réécritures, où on se pose aussi la question sur la musique, on rejoue la musique et tout, mais à leur sauce. Alors voilà, ça a pu vraiment être des réappropriations très diversifiées, jusqu'à jusqu'à des a cappella. Enfin, c'est
très intéressant parce que finalement, vous avez permis à la rencontre entre l'œuvre de Léo et des jeunes, mais sans rester stricto sensu sur l'œuvre de Léo ou sur le vécu de ces jeunes, mais en mêlant les deux et puis créer quelque chose d'autre finalement.
Je pense aussi que chez les profs, ils les bassinaient entre guillemets les jeunes avec Ferré parce qu'ils étaient souvent des passionnés.
Ouais.
Et ils se disaient en mettant in situ Ferré en situation de d'être joué, d'être écrit par les jeunes, ça va sortir de la théorie parce que le prof il va parler toute l'année ou au long cours ou un arc de son année, il va faire 3 mois sur Ferré.
Les gars, rassure, ça n'existe pas.
C'est en toile de fond. Je veux dire, pendant des mois, ils vont
en gros, ils ont la chanson engagée ou ils vont
remettre
un petit module.
Coup, puis ils vont dire les jeunes, au bout d'un moment, il faut qu'ils s'expriment autour de cette idée force. Quoi. Tu ne peux pas que leur expliquer.
Il faut qu'ils s'approprient, qu'ils le pratiquent aussi. Quoi.
Ouais, exactement. Ça change tout. C'est là où ils disaient bon, venez, si vous pouvez, venez m'aider à prendre le relais et puis à les intéresser vraiment. Ouais. Et ça, c'était cool parce qu'il y avait des bons retours.
Vous écoutez le Ferré Club sur Radio Libertaire.
Dans tes yeux, le mal qui se traîne comme une idée de crucifix. Dans tes mains, le mal qui se promène avec un vieux rêve rougi. Dans ton cœur, le mal qui se saoule de quelques minutes d'oubli. Et puis dans l'ombre, le bien qui coule dans la rivière de la nuit. Dans tes yeux, le mal se lave dans un coin où je ne vais pas. Dans tes mains, le mal qui se sauve et que tu files entre tes doigts. Dans ton cœur, le mal que consume ce feu qui n'en finit jamais. Et puis dans l'ombre, le bien qui écume comme des chevaux démarrer. Dans tes yeux, le mal qui s'habille pour me sortir dans ton pays. Dans tes mains, le mal qui grappille les grappes lourdes de la vie. Dans ton cœur, le mal qui s'achève dans un sanglot et dans un cri. Lorsque dans
Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste sur le 89.4 FM à Paris et www.radio-libertaire.net sur le reste du monde, pour ainsi dire. Après un long entretien consacré à son rapport avec Léo, Patrick Ullmann, le photographe, revient dans l'émission Le Ferré Club et on va parler avec Patrick un peu plus de son histoire personnelle. Lors des Ferré Club numéro 192, 193 et 194, et notamment lors de ce numéro 194 diffusé le 15 septembre 2021, Patrick, on quitte un peu Léo là cette fois-ci. Patrick va nous expliquer comment il se retrouve, il va se retrouver à faire la pochette de l'album de Jean Ferrat. Jean Ferrat qui chante Aragon.
Je demandais déjà depuis un moment à Alain Marouani, qui dirigeait le service publicité et photo de chez Barclay, de me dire quand est-ce que Ferrat viendrait à Paris, puisqu'il vivait en Ardèche, quand est-ce qu'il viendrait à Paris, et est-ce que je pourrais avoir une autorisation d'aller en studio le photographier. Au bout de quelques temps, Alain Marouani me dit, écoute, il sera la semaine prochaine à Paris, au studio Hoche, tel jour, je préviens que j'envoie un photographe. Donc c'est pas une commande, c'est pour répondre à mon... Et je me pointe au studio Hoche, il y avait Ferra, il y avait Gérard Meiss, l'agent manager de Ferra, Claude Achalet comme ingénieur du son. Je rentre dans le studio, Ferra n'était pas encore arrivé. Je rentre dans le studio, j'installe mon sac, mon matériel, puis au moment où Ferra arrive, je me lève, il vient vers moi, il me fait, c'est à quel sujet ? Je lui dis, voilà, Alain Marouani m'a dit que je pouvais passer, que vous étiez là, que je pourrais faire des photos pendant l'enregistrement. Et il me dit non. Non, non, enfin, j'ai rien contre vous, mais j'ai un photographe à qui je travaille depuis toujours. Donc voilà, non, on ne fait pas de photos. Puis il me dit, mais si vous avez envie de rester là pendant une heure ou deux, écoutez, avec plaisir, mais pas de photos. Bien, monsieur. Et puis je reste là, et puis j'écoute. Et c'était l'enregistrement de Ferra chante Aragon. Alors, il n'y avait que deux ou trois nouvelles chansons, parce que c'était une compilation de chansons parues sur plusieurs titres. Mais il y avait deux ou trois nouvelles qui sont venues s'additionner, et donc je reste là. Puis au bout d'un moment, Ferra vient vers moi et me dit, écoute, t'as une bonne tronche, pourquoi je t'empêcherais? Fais des photos si tu veux. Ça ne m'intéresse pas, parce que je garde mon photographe. Mais fais des photos quand même, vas-y, fais ce que tu veux. C'était plutôt sympathique.
Ouais, généreux.
Donc je reste, je fais mes photos, je rentre chez moi, je développe la pellicule, et donc ils m'ont dit que c'était un disque Ferra Aragon. Et en voyant une photo, je dis, mais c'est la pochette de Ferra Aragon. Pour moi, c'était une évidence. Donc je fais un beau tirage, format 30-30, comme un disque, et c'est une photo sépia, sur un fond doré. Je ne peux pas dire pourquoi, j'ai jamais fait de photo sur un fond doré. Mais ça me paraissait une évidence. Voilà. Je vais porter ça à Marouani. Je te remercie de m'avoir laissé entrer, voilà, j'ai fait ça. Et il me dit, mais c'est exactement ce qu'on cherche. Alors, je lui dis, oui, mais Ferra n'en veut pas. Il me dit, comment Ferra n'en veut pas? Il n'a pas vu. Je lui dis, non, mais... Et je peux comprendre, hein.
Bien sûr.
Et je veux pas aller marcher sur les visées d'un autre photographe qui travaille avec lui.
Ouais, et puis leur intimité à eux, voilà, quoi, déjà entre Ferra lui.
Voilà. Et je dis, non, bon, tant pis, on fait rien. Alain Marouani dit, on va voir. Et là, moi, le téléphone a une grande importance, toujours dans ma vie, parce que le surlendemain, Patrick Ullmann, j'ai été un con, excusez-moi, c'est Ferra, l'appareil. J'étais con, non?
Il dit ça?
Oui. Il dit, mais c'est vous qui avez la pochette, c'est une évidence.
Patrick Ullmann, dont je vous vraiment recommande l'écoute des différents entretiens, et si vous voulez comprendre pourquoi le téléphone a une importance toute particulière dans sa vie, notamment le premier entretien consacré à son rapport à Léo. Le 3 novembre 2021 sort, enfin pas le 3 novembre d'ailleurs, fin de l'année 2021 sort deux intégrales chez La Mémoire et la Mer. Une première qui est la suite des parutions, une intégrale qui s'intitule La Solitude, et une deuxième intégrale qui s'intitule La Complainte de la Télé, et qui regroupe pas l'exhaustivité des passages de Léo à la télévision, mais une grande partie des passages de Léo à la télévision, une sorte d'intégrale en quelque sorte, vidéo, intitulée La Complainte de la Télé, et Alaric Perrollier, des éditions La Mémoire et la Mer, revient dans l'émission. Nous sommes le 3 novembre, lors du Ferry Club numéro 198, et il nous présente cette entre guillemets intégrale vidéo de Léo Ferré. Une nouvelle fois, Léo écrit l'histoire.
Oui, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que c'est un coffret qui est totalement hors norme. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent chez des artistes qui ont un culte, on va dire, international, qui sont beaucoup plus connus et qui font beaucoup plus de ventes que Léo, n'ont pas le droit à ce traitement-là. C'est-à-dire que Mathieu Ferré a quand même rassemblé 65 heures d'archives issues d'une dizaine, peut-être, je ne sais plus, de fonds d'archives différents, qui à cheval sur 6-7 pays. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est unique en son genre. Y a Brassens, Brel, Gainsbourg n'ont pas eu l'honneur d'avoir le même traitement jusqu'à maintenant. Donc, c'est vrai que c'est un projet qui est un petit peu fou, puisqu'il y a 18 DVD. C'est énorme et ça couvre une période d'activité qui va des premières interventions télévisuelles de Léo en 1956 à ses toutes dernières où il est un peu fatigué, qui date de 1992 puisqu'il décède en 93. Mmh. Donc c'est vraiment quelque chose qui est rare dans le sens où je ne crois pas qu'il existe de façon extensive comme ça des archives compilées qui permettent de voir une trajectoire d'artiste et donc forcément aussi sur à l'échelle de, là ça fait combien d'années, 56, 66, 40 ans quasiment. Mm-hmm. L'évolution comme ça d'un paysage culturel, médiatique, télévisuel, qui dit des choses de l'évolution de la société aussi, des mentalités, et de la façon d'approcher un artiste qui lui-même évolue. C'est-à-dire qu'il faut être un peu obsédé de la chose et avoir une volonté... une détermination sans faille pour penser que l'exhaustivité doit exister, a un intérêt en soi. Parce qu'effectivement, les professionnels de la profession, comme disait l'autre, sont toujours un petit peu contraints par des considérations commerçantes qui consiste à dire que, bon, évidemment, 18 DVD, ça augmente le prix, qui va pouvoir se payer ça, c'est pour les Happy Few, et que, en fin de compte, il suffit de faire un coffret de 10 DVD où on garde que le meilleur, et puis le reste, on s'en fiche, on fait une sélection. Sauf que ce travail de sélection, il faut très très bien connaître les fonds d'archives pour pouvoir le faire, donc personne n'était apte à le faire. Et donc, là, le chef d'orchestre qui était à la manœuvre de tout ça, c'était Mathieu Ferré lui-même, le fils de Léo Ferré. Et donc, il connaissait très très bien les fonds d'archives, certains qu'il a découvert au fur et à mesure de ce travail, d'ailleurs, il n'avait pas accès à tout immédiatement, mais il connaissait très bien le fonds de l'INA, par exemple, et eh bien pour lui, c'était tout ou rien, c'est-à-dire que il peut être très têtu, et donc voilà, il a eu raison d'insister, et évidemment, il s'est heurté parfois à des gens sceptiques, pas tant les détenteurs de, comment dire, les institutions qui détenaient les archives, mais certains réalisateurs qui... sous des prétextes fallacieux, sont dit mais qui